RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. Alors on le sait, l'histoire de Paris et l'histoire de la France sont intimement mêlées. Alors aujourd'hui, pour parcourir ces deux histoires intimement croisées, nous allons mettre nos pas dans ceux de deux écrivains, deux promeneurs, deux historiens, en tout cas deux amoureux de Paris. Bonjour Nicolas Destiendorf.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation. Vous avez publié il y a déjà quelque temps un dictionnaire amoureux de Paris aux éditions Plon et qui ressort ces jours-ci dans une collection de poches joliment intitulée « L'abeille ». Et pour vous situer, juste quelques mots que j'ai relevés de votre part. Dans ce dictionnaire amoureux qui, il faut le dire, est copieux, vous dites « Permanent Champollion, nous devons inlassablement déchiffrer les hiéroglyphes de notre grande cité ». C'est ce que nous avons tenté de faire ensemble en compagnie de Jonathan Sixou. Bonjour.
Bonjour Frédéric Meunier.
Merci à vous. Alors vous publiez aux éditions du CERF un livre sobrement intitulé « Capital ». Un livre avec une jolie couverture, une tour Eiffel qui date de 1929, si je ne me trompe pas.
Une photo de Brassailles, oui.
Voilà, photo de Brassailles éclairée la nuit, très très belle. Et vous signez donc un témoignage très personnel sur Paris, cette ville capitale que nous allons parcourir en votre compagnie. Et vous écrivez de votre côté « La France à travers Paris se déroule et se donne tout en sourire et en larmes dans son éternel quotidien ». C'est cet éternel quotidien que nous allons tenter de scruter ensemble.
Les racines du présent. Frédéric Meunier.
Les racines du présent dans cette édition à travers Paris, nous allons retracer une histoire croisée de la France et de son capitale. Nos deux invités, Nicolas Destiendorf pour son dictionnaire amoureux de Paris en collection Poche et Plon et Jonathan Sixou pour son livre intitulé Capital au cerf. Alors, Nicolas Destiendorf, vous écrivez Paris est comme ce caillou jeté dans une eau claire, dont les cercles concentriques vont croissant, se perdant peu à peu dans le lointain. On pourra peut-être commencer avec vous à la préhistoire que vous évoquez, page 502 de votre livre. Comment ça a commencé, Paris ?
Ah là, vous voulez que je joue mon rôle d'historien ?
Voilà.
Je ne suis qu'un promeneur, moi je ne suis
oui,
je ne suis
qu'un
piéton.
Oui, mais vous êtes l'un et l'autre, quand même.
C'est-à-dire que quand on vit à Paris, pour qu'on ait un peu de curiosité et un peu le regard aiguisé, on est forcément attiré par une vue, par...
Et je vois vos yeux qui se lèvent vers le haut. Il faut regarder en l'air quand on se promène dans Paris.
Ça, je dis toujours. Maintenant, les gens se promènent dans Paris, vissés à leur téléphone portable, se cognent les uns aux autres.
Ça, alors, c'est un grand péché, quand même.
Et ne vont jamais au-delà du premier étage des immeubles. Et je dis, mais regardez le deuxième, le troisième, le quatrième, les frontons, les toits, les cheminées, ce qui se passe dans le ciel. Tout à coup, on découvre une perspective qu'on connaissait pas. On se rend compte qu'au débouché de telle rue, il y a un monument qu'on n'avait jamais remarqué. Alors, juste parce que les gens ne regardent pas.
Oui.
Les Parisiens sont trop gâtés, je dis toujours.
Ouvrons les yeux.
Ouvrons les yeux, regardons. Et Paris a effectivement commencé sous la préhistoire. Alors, il y a pas mal de théories. Mais puis j'ai toujours ces images qui me fascinent. On dit que sous la préhistoire, la Seine était aussi large que l'Amazone et que les mammouths descendaient des collines de Belleville pour s'abreuver. Et petit à petit, tout ça s'est resserré.
On dit même que les mammouths remontaient la rue Saint-Jacques. Vous avez vérifié, Nicolas Destiendorf ?
Alors, je ne les ai pas rencontrés, mais j'aime bien, quand je me promène dans Paris, penser à ce qui était là avant et à l'empilement successif des époques, de se dire qu'il y a 1000 ans ou 2000 ans, les fantômes passaient déjà et je ne peux pas m'empêcher, surtout quand je suis plongé dans des recherches sur Paris, tout à coup de voir, d'entendre passer une carriole, d'imaginer qu'un vitrier est en train de crier les fameux marchands de Paris. Il y a une imbrication permanente de choses, mais il suffit juste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de savoir regarder et de savoir écouter, même de savoir écouter parler les fantômes.
Jonathan Sixou, vous aussi, vous êtes familier des fantômes parisiens ?
Ce sont eux qui aident à vivre au quotidien, même ce sont des fantômes bienveillants, ce sont des fantômes enrichissants à plus d'un titre. Et je reviens à ce que disait Nicolas Destiendorf sur les animaux qui peuplaient Paris à la préhistoire. Je cite un passage de la Bédolière qui nous apprend que finalement, où que nous soyons dans Paris, nous sommes sur un sol marin. Et puisque l'eau était bien plus haut, effectivement, comme le disait Nicolas, c'était un large fleuve avec des animaux épouvantables, comme savait l'inventer la préhistoire, et d'une violence, c'était que des animaux qui se mangeaient les uns les autres. Beaucoup d'animaux marins, et ce sont ces animaux qu'on retrouve dans le sol de Paris aujourd'hui, qui est très riche en fossiles.
Et alors, vous évoquez dans votre livre intitulé « Capital » aux éditions du Cerf, Jonathan Sixou, vous évoquez le rôle essentiel de la Seine. Tout s'est construit, tout a commencé avec la Seine.
Tout s'est construit autour de la Seine, déjà au milieu de la Seine, avec l'île de la Cité, qui est l'île mère de Paris, qui était beaucoup plus petite qu'elle l'est aujourd'hui. Et je ne vais pas me tromper sur les chiffres, mais elle fait à peu près 16 hectares aujourd'hui. Elle en faisait 7 initialement.
Mmh. Et puis surtout, il y avait plein de petites îles les unes à côté des autres qui ont été rassemblées.
C'était un archipel.
Elles ont été rassemblées. Il y a eu l'alluvionnage des siècles aussi qui a fait, mais en sorte qu'elle a la taille qu'on lui connaît aujourd'hui. Et le fleuve, tout s'est construit autour du fleuve, puisque l'eau, c'est la vie. Et la Seine servait aussi bien à boire qu'à alimenter son bétail, qu'à faire sa vaisselle et à circuler énormément. Toutes les livraisons ne faisaient pas par Rungis et par le périph, mais par la Seine, tout simplement.
Je ne résiste pas au plaisir de citer l'un des auteurs que vous avez lu. Vous avez lu beaucoup d'auteurs, Jonathan Sixou, pour construire votre livre sur Paris. Il s'agit de Paul-Louis Jacob. Paul-Louis Jacob, qui a écrit « Chaque rive de la Seine ressemblait à une forêt ténébreuse, infecte comme les soupiraux de l'enfer, tant il y avait de sales cloaques parmi les poutres et les piliers qui soutenaient une ligne de maisons, de moulins et de fabriques. La navigation sous les ponts était très dangereuse à cause des madriers et des faisceaux de charpentes qui se dressaient de toutes parts, ça et là, roues de moulins, digues, vannes, obstacles de toute nature, écueils à fleur d'eau, puits, des fenêtres, des toits, des sentines. On jetait tout ce qui était capable d'encombrer et d'empoisonner le lit de la rivière. » Nicolas Destiendorf, vous auriez pu écrire ça.
Oui, absolument. Mais d'ailleurs, c'est étonnant. En fait, on ne se figure pas ce que c'était Paris jusqu'à à peu près jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ce qu'on voit dans le plan de Turgot de façon très propre. Mais il n'y avait quasiment pas de pont sans maison. Il n'y avait que le pont, essentiellement le pont Neuf. Et tous les autres ponts étaient recouverts de maisons, comme le Rialto à Venise. Et en fait, la Seine, on ne la voyait pas. C'est-à-dire que quand on traversait un pont, en fait, on passait au milieu de maisons. Et quand on voit les fameux tableaux de Ragnet à Carnavalet, on voit des joutes sur la Seine au XVIIIe siècle, Paris, c'était un enchevêtrement incroyable. Ça ressemble presque à un décor de Walt Disney. C'est très étrange de voir à quel point c'était dense, c'était imbriqué, et les rues n'étaient que des petites venelles, des sentines qui étaient un amas de saleté.
Et tout cela était puant,
puant, c'était un cloaque permanent. Voilà. Et puis il y avait la Seine, puis il y avait la fameuse Bièvre qui coulait de l'autre côté de la ville.
Une rivière qu'on va peut-être redécouvrir.
Oui, alors je vois pas comment. C'est un beau rêve, c'est une jolie idée, mais c'est à mon avis totalement. D'abord, ça n'a pas de sens. De toute façon, la Bièvre, son cours est disparu, et surtout, on a changé le nivellement du sol, donc il faudrait recreuser pour recréer la vallée de la Bièvre, et ça c'est pas possible.
Jonathan Sixou, il y a eu ces enceintes de Paris qui ont marqué l'histoire de la capitale. Ça a commencé comment? C'était autour de l'île de la Cité que vous évoquiez tout à l'heure?
Dès l'occupation de l'île par les Gaulois qui vivaient là. C'était des nôtres, ils étaient entre les roseaux et leurs embarcations. Et pour faire face à l'envahisseur romain, ils ont commencé, c'était un peu dérisoire, c'était des planches de bois. Des palissades, exactement, les premiers fortifs de Paris. Et ensuite, l'image de Nicolas est très belle, d'un caillou lancé dans l'eau.
Oui.
Pierre Gaxotte en a une autre que je trouve très belle. On peut comparer l'évolution de Paris à un tronc d'arbre qu'on coupe dans son épaisseur, et on a tous les qu'on appelle les yeux, je crois, de l'arbre. Et c'est comme ça qu'on peut calculer.
Ça s'appelle même la dendrochronologie, figurez-vous. Voilà.
Merci de m'avoir appris un mot.
Allez, c'est ma contribution. Donc.
Et donc Paris a plusieurs époques, à plusieurs âges de son évolution connu des fortifications pour protéger les habitants, pour protéger les églises, les abbayes, les richesses qui étaient contenues dans la ville. Il y a eu la muraille de Philippe Auguste, et ensuite différents souverains ont fait en sorte d'agrandir ces murailles jusqu'à Louis XIV qui lui les rase. La France est vraisemblablement suffisamment puissante pour ne plus avoir à être défendue à ce moment-là. Et les fortifs de Paris, les murailles de Paris deviennent à ce moment-là les fameux boulevards que nous connaissons et qui connaîtront leurs belles heures un siècle et demi après, au 19e.
Et pour arriver jusqu'à aujourd'hui, le périphérique a été construit sur les fortifications de Adolphe Thiers, voilà, qui a construit cela en 1840. Nicolas Dessendorf, contre qui les Parisiens ont-ils dû se défendre avec cette succession d'enceintes ? Qui étaient nos ennemis ?
Les ennemis, d'abord, il y a quand même les Romains qui arrivent, voilà, au moment des Gaulois. Et puis ensuite, il y a eu les invasions barbares. Et en fait, les gens arrivaient par la Seine. Les gens n'arrivaient pas par la terre, mais ils arrivaient par la mer, par l'eau.
Oui, les Vikings sont venus par l'eau, par exemple.
De toute façon, l'histoire de Paris, c'est une suite de sièges, de sièges successifs, parce que Paris, c'était pas exactement la France.
C'était pas une capitale.
Non, enfin, ça c'est devenu une capitale au bout d'un certain moment, mais c'était une des grandes villes françaises. Paris a été un enjeu de pouvoir constamment jusqu'au fameux siège de 1870, où en fait les fortifications n'ont pas servi à grand-chose. C'est-à-dire que l'énorme structure mise en place par Thiers, c'était aussi une espèce de vœu pieux, parce que ça a dû coûter une fortune, c'était colossal.
Ça a servi à boucler la ville.
Il faut dire que ça correspond aussi à la modernisation de l'armement. On peut à ce moment-là tirer des canons qui peuvent passer largement au-dessus des fortifs.
Donc, la France avait à chaque fois une sorte de train de retard.
Exactement.
Et puis il y a eu ce qui a donné le visage que nous voyons aujourd'hui de la ville, la révolution haussmannienne. Le baron Haussmann, Nicolas Dessendorf, est-il votre ami ou votre ennemi ?
C'est forcément les deux. C'est-à-dire que c'est un personnage qui me fascine. À la fois c'est le fossoyeur de Paris, à la fois c'est son sauveur. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, on peut pas s'empêcher d'avoir le cœur fendu quand on regarde le plan de Turgot et quand on regarde le plan de Paris, c'est-à-dire en fait un petit peu plus d'un siècle plus tard, tout ce qui a été rasé, mais en même temps ça a sauvé Paris ça a préservé Paris pour les siècles à venir. Ça a fait respirer la ville. Et mieux vaut que ça soit passé à une époque comme celle du baron Haussmann et de Napoléon III, où il y avait au moins une unité visuelle, une unité architecturale et une homogénéité, plutôt que lors de pouvoirs plus successifs, où on aurait eu une accumulation hétéroclite de choses, comme les abominables constructions qui ont eu lieu entre les années 50 et le début des années 80, où là, tout l'est de Paris était rasé, était à la merci des promoteurs, et là, ça n'avait rien à voir. Au moins, Haussmann a unifié Paris, et je pense avec... En fait, on se rend compte d'ailleurs de la qualité de ce travail, de l'intelligence de ses voix. Il a créé énormément de parcs, il a fait respirer la ville.
Donc, à l'instar de Londres, Londres a été un peu son modèle, c'est ça ?
Londres était le modèle de Napoléon III, en fait, qui était très 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 impliqué dans le travail haussmannien. Et Napoléon III, c'est un personnage aussi je veux dire, Paris lui doit énormément, et c'est étrange qu'il n'y ait qu'une place que les gens ne situent absolument pas. Vous savez où est la place Napoléon III ?
Eh bien non,
En fait, c'est l'esplanade devant la gare du Nord. Personne ne remarque ça.
Ciel.
En fait. Oui, et Napoléon III mériterait...
Parce qu'il a façonné la ville capitale.
Oui, il a façonné la ville capitale. Il y a du bon et du moins bon chez Napoléon III, mais il mérite plus que la façon un peu dédaigneuse
Il est assez méconnu dans l'histoire de France aujourd'hui. Jonathan Sixou, quel regard vous portez sur le baron Haussmann, ses travaux ?
Je ne peux qu'abonder et aller dans le sens de Nicolas. J'ajouterais qu'effectivement, il a permis de clarifier la lecture de Paris. Le fait de raser beaucoup de choses, c'est vrai, mais il a révélé un tracé de Paris immuable. Et donc, en clarifiant la lecture...
Vous voulez dire, il a fait remonter à la surface des tracés anciens ?
Pas tant que ça. Les tracés anciens ont toujours existé. Ouais. Et d'autres ont été rasés principalement sous le Second Empire pour créer des îlots nouveaux, etc. Mais il a permis de mettre en avant des monuments historiques. Chaque perspective haussmannienne s'achève par une église, par une façade de monument déjà existant.
Ou par une gare.
Mais la gare du Nord de Hittorf est un chef-d'œuvre absolu, par exemple. Et faut avoir aussi conscience que le gros des travaux haussmanniens, on le voit pas, ce sont tous les réseaux d'égouts, tous les réseaux souterrains.
Alors la salubrité publique.
Les travaux de Belgrand, c'est extraordinaire.
Vous n'en parlez pas ni l'un ni l'autre, mais la salubrité publique. Haussmann a fait respirer Paris et il a sauvé la santé des Parisiens. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Et comment ? Quand on voit les superbes photos d'Adjet ou de Marville prises avant, c'est un inventaire photographique du vieux Paris avant les travaux. c'est bouleversant de beauté, de nostalgie, c'est toute les mystères de Paris, la féerie de Paris, tout ce qu'on veut.
Mais c'est dégueulasse.
Mais si on se projette un peu, c'est invivable.
Et on meurt très jeune.
Et le
choléra fait ses ravages.
Et n'importe quelle maladie peut se transmettre d'une fenêtre à une autre. Mm-hmm. Et donc, le travail, c'est vrai que quand on voit les photos de tous les clochetons, tous les clochers de l'île de la Cité, etc., c'est superbe.
Mais c'était probablement difficile.
C'était, je pense, absolument pas possible pour une ville moderne et qui devait se projeter dans l'avenir pour continuer d'être une grande capitale. Quand on voit après ce qu'est devenu Paris sous les débuts de la Troisième République jusqu'en 1900, c'est vraiment la capitale du monde.
Nicolas Destiendorf, on ne retient d'Haussmann souvent aujourd'hui que les grandes percées destinées à réprimer les soulèvements populaires.
C'est la façon dont on présente la chose. Oui. C'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Oui. C'est-à-dire ça, c'est une lecture un peu... sous prétexte que c'était Napoléon III, donc c'était une dictature, donc c'était forcément un peu mauvais, donc forcément c'était animé d'une intention maligne.
Une sorte de partialité.
Bien sûr, mais il a effectivement fait respirer la ville. Et effectivement, alors là, l'île de la Cité, c'est un peu le... Là, le marteau-piqueur est allé un peu trop fort. C'est vraiment c'est le grand gâchis.
Il a tout cassé.
Il reste les 3-4 rues derrière Notre-Dame. Mmh. Voilà, la rue des Marmousets, ce genre de choses. Mais sinon...
La Sainte-Chapelle.
Oui, la Sainte-Chapelle, effectivement, mais qui est restée enclavée. Oui. Mais sinon, on a l'impression d'une gigantesque caserne.
C'est ça.
Et même la place Dauphine, qui est une place ravissante, avoir le cul du palais de justice derrière. Mmh. Mais... ça reste quand même, c'était le cœur, Paris a commencé là, et c'est un peu dommage que pour sauver un corps général, on en tue le cœur. Mais bon.
Alors on sent chez l'un et l'autre, chez Nicolas Destiendorf et chez Jonathan Sixou, on sent à la fois l'émerveillement pour cette capitale et puis la nostalgie. Alors on va faire une petite séquence musicale nostalgie, on va se tourner vers Bourvil, je pense que nos auditeurs se souviennent de ce grand comédien, Bourvil et la nostalgie des petits bals.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Il buvait dans le même verre.
Voilà, les petits bals perdus de Bourvil, les petits bals perdus, peut-être c'était aussi ces petits bals qui jalonnaient la vie musicale de Paris autrefois. Paris, le thème de cette édition des Racines du présent.
Les Racines du présent, RCF.
Les Racines du présent, au micro Frédéric Mounier. Aujourd'hui, notre thème, à travers Paris, une histoire croisée de la France et de sa capitale. Nos invités, d'une part Nicolas Destiendorf pour la réédition en poche de son Dictionnaire amoureux de Paris, qui est paru chez Plon dans la collection L'Abeille, et Jonathan Sixou pour son livre intitulé « Capitale au cerf ». Alors Jonathan Sixou, vous attachez une certaine importance, on sent que vous êtes touché par certains épisodes de l'histoire de Paris, notamment des épisodes de notre histoire nationale, de notre révolution nationale notamment, et les massacres de septembre 92 au couvent des Carmes notamment. Vous avez été touché par ça. Racontez-nous, Jonathan Sixou.
L'épisode révolutionnaire des massacres de septembre est un moment terrible de la révolution de 89. C'est vraiment un déferlement d'une violence... qu'on n'arrive toujours pas à expliquer aujourd'hui, une violence gratuite pour laquelle il n'y a pas eu d'ordre officiel donné de massacrer très clairement tous les prisonniers qui avaient été emprisonnés dans différents lieux parisiens, le couvent des Carmes, la prison de la Force, de la Petite Force, l'abbaye de Saint-Germain, etc. Et au couvent des Carmes, les massacres ressemblent exactement au même que dans les autres endroits. C'est-à-dire qu'il y a une parodie de procès expédiée généralement en 5 à 10 minutes. Après quoi, le condamné sort et est littéralement lynché par des forts des Halles, par des petits bourgeois, par des coiffeurs. Ça, Michelet raconte ça très bien.
À la porte du tribunal.
À la porte du tribunal. Il y avait un code entre les présidents de chambre, si je puis dire. S'ils étaient, par exemple, à l'abbaye, ils disaient à l'issue de leur décision, conduisez monsieur ou madame à la force. Et s'ils étaient à la force, ils conduisaient monsieur ou madame à l'abbaye. Ce qui était le signal de dire tuez-le.
Exécution sommaire.
Et au Carme, ce qui est très touchant, c'est qu'il reste. Donc c'est aujourd'hui la Cato.
L'Institut catholique de Paris,
qui est rue de Vaugirard, qui fait l'angle avec la rue d'Assas. Des dizaines de jeunes prêtres ont été assassinés, lynchés, coupés littéralement en pièces et enterrés dans des fosses communes qu'on n'a jamais retrouvées et qui se situent quelque part au carrefour entre la rue de Rennes et la rue d'Assas aujourd'hui.
Sous nos pieds.
Quand la rue de Rennes a été percée.
Par Haussmann, justement.
Par Haussmann, il ne la termine pas, la rue de Rennes.
Heureusement.
Oui.
Sinon, Saint-Germain-des-Prés aurait été.
Oui, c'était sur allait jusqu'à la Seine. Ça allait jusqu'à la Seine, oui. Mais il y a eu un comité, déjà, c'est l'un des premiers comités actifs d'habitants pour s'opposer à la...
Et jusque dans les années 30, ils caressaient encore l'idée. La guerre et l'occupation ont...
Les années 30 ont détruit énormément, et notamment dans le quartier latin, les années 30, on l'oublie trop souvent. La Troisième République a finalement fini pas mal de destructions menées par le Second Empire.
Donc vous nous dites...
Oui, et je reviens donc...
Les martyrs des Carmes...
Sont de vrais martyrs, exactement.
Sont peut-être sous nos pieds au carrefour
Rennes. Ils sont sous nos pieds, quelque part. Il y avait un jardin, il y avait une petite chapelle... Quand la rue a été tracée, les pères ont pu récupérer les panneaux de la chapelle qui étaient encore ensanglantés pour les garder comme reliques. Et il y a une cellule qui est conservée, qu'on peut visiter sur rendez-vous. C'est bouleversant puisque c'est très fragile. Il y a une plaque de verre qui protège le mur. Il y a encore la trace des la silhouette des sabres ensanglantés qui étaient posés contre le mur. Et le sang s'est imprégné dans la pierre. Et ça vous fait passer. On parlait des fantômes en début d'émission, mais il y a des témoins tangibles du temps qui passe.
Il y a des traces.
Et quand on y est confronté directement, là, il n'y a plus d'espace temporel.
C'est beaucoup d'émotions. Nicolas Dessendorf, quelle place a occupé, la violence dans l'histoire de Paris, vous qui connaissez bien cette histoire.
La violence était constante. Une ville aussi ancienne qui surgit quasiment de la préhistoire et qui se développe au temps dit barbare et au Moyen-Âge et tout ça. La violence était quotidienne. C'est juste que là, maintenant, on vit dans une époque, quoi qu'on en dise, assez aseptisée. La violence, la présence de la mort était constante. Quand il y avait des épidémies, il y avait des cadavres dans la rue. Enfin, est-ce que c'est de la violence? Ça, non, c'était juste le quotidien des gens. Que ce soit effectivement la révolution, les révolutions, la fronde, la Saint-Barthélemy.
Combien de morts à la Saint-Barthélemy à Paris? Saint-Germain-l'Auxerrois, la première ronde.
Je ne connais pas les chiffres. C'est colossal. Ouais. C'est colossal. Et puis la Commune, qui a quand même été une explosion de violence. Et puis, alors, dans des périodes plus récentes, même ce qui s'est passé pendant la guerre, l'épuration à Paris. Voilà. Enfin, on a toujours l'impression qu'il y a un bouton sur lequel on peut appuyer et clac, ça se développe. Ça se débloque. Bon, alors, récemment, les Gilets jaunes, c'est autre chose. Mais on voit à quel point le goût du saccage et ce côté français un peu colérique. La France est un pays où on aime bien faire table rase.
Et ça se voit bien à Paris.
Ça se voit bien. Ça se voit bien dans l'état d'esprit peut-être des Parisiens. Enfin, il y a un côté un peu grognon et un côté on est un pays qui tranche la tête de son roi. Il y a peu de pays qui ont fait ça, tout ça pour avancer, mais c'est ce côté on fait table rase, on passe à autre chose et il y a des pots cassés.
Mais la mort est très présente dans la vie pendant des siècles dans le quotidien des Parisiens puisqu'il y a les exécutions quotidiennes dans différents quartiers. Généralement, on s'arrangeait pour que l'exécution ait lieu le plus près possible du lieu du crime, du délit pour lequel le condamné était tué. Et donc, il n'y avait pas uniquement la place de Grève ou quelques lieux d'exécution habituels. Il y en avait un peu partout. Et il était très fréquent jusqu'au milieu du XVIIIe siècle de pouvoir passer devant un pendu, devant un écartelé, devant un roué, etc. Et ce qui est fascinant pour nous aujourd'hui, qui vivons dans une époque ouatée, un peu aseptisée, où finalement Paris même, peut-être n'a jamais été aussi calme de son histoire, paradoxalement.
Oui, il faut le dire. Paradoxalement,
exactement. Ouais. Il était fréquent, donc cette confrontation était quotidienne avec la mort et ça ne choquait pas les gens. Il y a une évolution des sensibilités qui est passionnante à observer aussi à travers
alors,
le temps.
Alors, parce que ce qu'était le gibet de Montfaucon, cette énorme structure
qui se trouvait
globalement à l'emplacement du siège du PC actuel.
Du Parti communiste.
Absolument, oui.
Place Kossuth. Place du colonel Fabien.
C'était un peu au-dessus. Ouais. Effectivement, c'était une énorme structure avec des cadavres qui étaient les gens qui avaient été exécutés ou pendus, on les mettait là. Comme ça, les gens qui arrivaient dans Paris, ils savaient que s'ils se comportaient mal, voilà ce qui risquait de leur arriver. Et les exécutions, ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'il y a des exécutions publiques jusqu'à quasiment la Seconde Guerre mondiale. C'était encore dans la rue. Et il y avait.
Rue de la Roquette.
Rue de la Roquette. Et il y avait dans la presse. Il y avait des chroniques. Jean Lorrain a été un moment critique d'exécution. Alors oui, le bourreau s'est bien débrouillé. Un tel a fait telle remarque. Et c'était exactement comme des comptes rendus de spectacle.
C'était dans les journaux.
Et les grands-parents emmenaient leurs enfants pour découvrir.
Et alors, Jonathan Sixou, vous nous apportez quelques précisions. On sait qu'aujourd'hui, l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, est de nouveau ouvert au public. Mmh. On sait que cette immense pièce au coin de la rue Royale et de la place de la Concorde au premier étage, qui fut le siège du chef d'état-major de la Marine, vous nous racontez un épisode très très précis au moment de la Révolution.
Oui, puisque c'est de cette fenêtre qu'a été signé le PV de l'exécution de Louis XVI. Parce que ce jour-là, la guillotine elle-même se baladait dans Paris parce que personne ne voulait la voir sous ses fenêtres. Parce que ça, déjà, c'était un spectacle odieux pour beaucoup d'habitants, même révolutionnaires. Et puis, ça drainait une population épouvantable. Et il y avait l'odeur du sang l'été, les animaux errants. Enfin bref, c'était l'enfer. Et donc, cette guillotine se balade. Et pour l'exécution de Louis XVI, elle est dressée quasiment au débouché de la rue Royale. Entre la rue Royale et l'entrée de l'Automobile Club, à peu près. Voilà. Et donc, l'emplacement idéal pour pouvoir observer l'exécution et pouvoir constater la mort du roi, c'est la fenêtre d'angle de ce salon qui a ensuite été, jusqu'à il y a quelques années, le bureau du chef d'état-major de la Marine.
Si vous visitez l'hôtel de la Marine aujourd'hui...
Ça n'est absolument pas précisé.
Écoutez bien les racines du présent, mais cet épisode n'est pas signalé.
Et pour l'exécution de Marie-Antoinette, la guillotine était de l'autre côté, quasiment devant...
À
l'aplomb des Tuileries. Il y avait ce qu'on appelait le pont tournant, parce qu'il y avait des fossés qui bordaient les Tuileries. Et là, pour le PV, les commissaires révolutionnaires étaient dans un petit boudoir qu'on appelait le boudoir de Marie-Antoinette, d'ailleurs déjà à l'époque.
Alors écoutez, puisque nous sommes dans le tragique, nous allons y rester, mais nous allons y rester avec une magnifique chanson de Serge Reggiani, « Les loups sont entrés dans Paris ».
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana... Pour eux, c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire, les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups. Les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire, les loups regarde vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait divers. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de l'eau, oh, 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 de l'eau sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De l'eau sont entrés dans Paris. As-tu peux rire, charmante Elvire. De l'eau sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux...
Les loups sont entrés dans Paris, Serge Reggiani, le témoignage de la violence qui a marqué l'histoire de notre capitale, c'est le thème de cette édition des Racines du présent, histoire croisée de la France et de sa capitale.
Les Racines du présent, RCF.
Depuis Paris à travers la France, Paris et la France, avec nos deux invités, Nicolas Destiendorf pour son Dictionnaire amoureux de Paris, publié chez Plon dans la collection de poche L'Abeille, et Jonathan Sixou pour son livre Capital au Cerf. Alors l'un et l'autre, vous nous livrez des témoignages très très précis, très très personnels, très très subjectifs, et c'est ce qui fait tout le sel et la saveur de vos deux livres. Nicolas Destiendorf, vous insistez longuement sur les lieux qui ont été les vôtres à Paris. Alors ces lieux sont très fortement marqué par l'histoire de notre pays, à commencer par le Palais Royal. Racontez-nous.
Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai des grands-parents qui avaient un appartement dans le Palais Royal.
C'est incroyable.
Littéralement, avec donc au deuxième étage, donnant sur les jardins, contre le théâtre du Palais Royal. Et en plus, c'était au numéro 36. Et ce qui était amusant, c'était l'immeuble où, à l'entresol, vivait Cocteau. Mm-hmm. Et au quatrième étage, vivaient Emmanuel Berle et Mireille, son épouse.
C'était un bon voisinage.
Voilà. Alors, je n'ai connu ni Cocteau ni Berle, mais quand je me suis installé...
Mais les fantômes qui vous sont chers étaient présents.
Ah voilà, et puis surtout je prenais l'ascenseur avec Mireille, ce qui était
quand même...
Moi qui ai grandi, j'ai eu un père qui m'a élevé à la chanson dite rétro. Voilà, je fredonnais avec elle.
Mireille, le petit conservatoire de la chanson sur l'ORTF. La prochaine fois, on le fera écouter à nos auditeurs. Donc le Palais Royal, quelle histoire, Nicolas Destiendorf?
Le Palais Royal, alors d'abord, c'est mon lieu favori parce que c'est une sorte de parenthèse. C'est un lieu, c'est une sorte de jardin public uniquement pour les Parisiens. Les touristes ne savent pas que ça existe parce que ça n'a pas pignon sur rue. Mmh. Et donc, c'est un endroit presque caché. C'est connu. Mais, et puis, d'abord, c'était l'un des principaux lieux de prostitution à une époque. C'est là que la gastronomie s'est le plus développée. Les premiers grands restaurants parisiens ont commencé dans le quartier et assez rapidement sous les colonnes du Palais Royal.
On dit même que c'est là que Napoléon Bonaparte a connu ses premiers émois amoureux.
Dit-on, absolument. Et puis c'est amusant parce que c'était en fait à l'origine une opération immobilière de la famille d'Orléans qui avait en fait créé des immeubles pour les...
Alors au départ, il faut rappeler, c'était Richelieu.
Au départ, c'était Richelieu.
Le palais cardinal.
Et ensuite, les Orléans rachètent la chose et en font une opération immobilière parce que, à l'origine, la rue de Montpensier et la rue de Valois donnaient sur les jardins. Et tout à coup, les malheureuses personnes qui avaient des appartements là se sont vues avec un mur sous le nez parce que ce
qui est aujourd'hui le Conseil d'État.
Ce qui fait tout le carré du Palais Royal.
Le ministère de la Culture et le Conseil
d'État.
Absolument.
Et donc, j'ai vécu là juste une année, mais c'était extraordinaire. C'était les petites chambres de bonne sous les toits. C'est-à-dire que ça n'avait quasiment pas été refait. Du moins, la toiture n'avait pas été refaite depuis deux siècles.
Depuis Louis-Philippe, allez.
Absolument. quand il faisait 32 heures, il faisait 45 à l'intérieur. Mais voilà, comme baptême parisien, c'était prodigieux.
La Révolution française s'est jouée sous les arcades du Palais Royal.
Absolument.
Camille Desmoulins a appelé à la révolte avant lui-même de passer sous le couteau révolutionnaire.
L'histoire de Paris, en plus c'est au milieu, c'est au centre, ça arrive en perpendiculaire au Louvre, et c'est un endroit qui malgré tout, malgré quelques modifications, n'a quasiment pas bougé, a gardé un esprit, a gardé une âme.
Il y a une chose qui me touche énormément avec le Palais Royal, auquel je suis très attaché aussi, c'est que c'est aujourd'hui une belle endormie, une parenthèse comme ça, alors que ça a été le lieu le plus agité de Paris pendant deux siècles.
C'est ça.
Et la seule modification, elle est de taille quand même, c'est qu'en son centre, Aujourd'hui, vous avez un bassin circulaire.
Il y avait la galerie.
Et des pelouses de part et d'autre. Mais vous aviez, je ne sais plus si ça s'appelait le Grand Cirque, je crois, ou quelque chose comme mm-hmm. ça. Une sorte de centre commercial à moitié enterré, avec une salle de bal pour accueillir des milliers de personnes dans un demi-sous-sol et des boutiques, des terrasses.
Et je crois que ça
café.
S'appelait la Galerie d'Orléans, effectivement.
C'est ça.
Il y avait la Galerie d'Orléans, mais il y avait donc tout ce centre, ça fait plusieurs centaines de mètres.
On a l'impression, en vous écoutant, que vous y avez vécu l'un et l'autre.
Mais, mais c'est quelque. C'est, oui. Si vous voulez, le contraste est particulièrement évident dans cette bulle mm-hmm. merveilleuse. Ça, c'est vrai, de toute façon.
Et puis, à deux pas du Palais Royal, Jonathan Sixou, vous évoquez la place des Victoires et les statues déboulonnées de Louis XIV.
Alors que la place des Victoires est
on a déjà déboulonné des statues.
Oui, il y en a eu beaucoup, et le déboulonnage des statues que je m'amuse à non pas inventorier, mais à citer, montre que ça a toujours été une longue histoire, ça aussi, les statues.
Et les Allemands ont beaucoup déboulonné pendant la guerre,
ça, on sait que fabriquer des canons. Pour récupérer le métal, mais il y avait des déboulonnages idéologiques.
Alors la statue de Louis XIV, quand la place est inventée,
cette place circulaire, place des Victoires.
Il y avait pour le projet inventé par le duc de La Feuillade, qui ne savait pas comment exprimer son amour, et débordant pour le roi. J'ai pas d'autres mots.
Oui.
C'est assez frais qu'il rachète plusieurs hôtels, plusieurs terrains, etc., pour raser tout ce qu'il y a dessus, pour faire bâtir cette merveilleuse place. Et il fait édifier fondre une statue, un bronze doré qui fait, je ne sais plus, 13 ou 15 mètres de haut. C'était le plus grand
gigantesque.
Et pour,
qui n'est pas la statue actuelle.
Non, qui n'est pas la statue actuelle. Mmh. C'est un Louis XIV qui est debout, couronné par une victoire, une femme ailée comme ça. La statue entièrement dorée. Et nouveauté, c'est qu'il y a quatre pilastres sur la place pour l'éclairer la nuit, pour que les Parisiens puissent voir un Louis XIV brillant de mille feux.
Le roi soleil.
Et il y a tout un débat dès l'inauguration qui choque énormément, parce que... c'est une démonstration d'idolâtrie, estime-t-on alors. Et
alors, est-ce que c'était pour convaincre Louis XIV de revenir un tout petit peu à Paris parce qu'il avait délaissé
Louis XIV n'était même pas venu pour voir la.
Oui,
il s'en foutait complètement. Il a envoyé le dauphin et toute la cour est rentrée le soir même à Versailles, scandalisée par la démonstration d'idolâtrie de La Feuillade.
Quand même.
Qui a dû, quelques années après, parce que le débat durait assez longtemps, faire travailler un philosophe qui s'appelle François de Lémé sur la statuaire, où il prouve, c'est une sorte de démonstration dans un français classique superbe, mais qui est totalement absurde, pour nous prouver qu'on peut idolâtrer une statue comme on idolâtre un tableau.
Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette statue ?
Cette statue a été déboulonnée sous la Révolution, mais il était question au début, assez tardivement, puisqu'il était question de la garder pour montrer ce qu'était l'horrible condition des Français sous l'Ancien Régime. Et finalement, elle n'a pas pu. Il a fallu effectivement du bronze à canon. Il a fallu un bronze de canon. Non, il reste. On a encore au Louvre un pied de Louis XV, de la place Louis XV.
Ah, de la place Louis XV.
La place actuelle de la Concorde.
La place de la Concorde. Voilà,
exactement.
Je me trompais de pied.
Il y a un pied. Il y a le pied de la place. Je dis une bêtise. C'est pas de la Concorde, c'est de la place Vendôme. Hein.
D'accord.
C'est un magnifique bronze.
Nicolas Descender, vos lieux de prédilection, vous avez eu aussi le privilège d'habiter deux places du Palais Bourbon.
Absolument.
C'est-à-dire en face de l'Assemblée nationale.
Sur cette petite place qui a une atmosphère presque italienne. Elle a une forme un peu différente. Où j'ai vécu pendant 7 ans. C'est un petit appartement qui donnait sur une cour. Mais ce qui était amusant,
c'est un lieu d'histoire. L'histoire se fait.
C'est un lieu d'histoire. Je croisais des gens, mais ça, je le raconte dans mon livre. C'est-à-dire que j'étais à deux pas de l'appartement où vivait René de Chambrin, qui était le gendre de Pierre Laval, et qui a passé toute la fin de sa vie.
Qui était le propriétaire de l'eau.
De l'eau de Châteldon.
De Châteldon.
De Châteldon, et surtout le propriétaire de Baccarat.
Baccarat, voilà. Également.
Et que c'était un monsieur extrêmement riche et très sobre que je voyais descendre. C'est une sorte de vieux croquement de 90 ans qui rentrait dans sa Cadillac. Et de l'autre côté de la place vivait Diana Mosley, qui était l'une des sœurs Mitford et la veuve d'Oswald Mosley, le fondateur du parti fasciste anglais. Et parfois, je voyais les deux se croiser au milieu de la place. L'un allait à la poste, l'autre allait acheter des fleurs chez Moulier Savard. Et là, on se dit quand même. L'histoire se croise. Et puis je me disais, mais alors, qui, à part moi aujourd'hui, est témoin de cette chose-là? Et là, je me dis, et ça, c'est Paris, quand même.
Alors ça, c'est Paris. Alors il y a Paris, mais il y a aussi les Parisiens. Et alors, j'ai relevé cette phrase, mais je dois vous avouer, mon incurie, je ne sais pas lequel de vous deux a signé cette phrase, vous allez me dire. Les Parisiens sont fats, hautains, vaniteux, agressifs, méprisants, côteleux, déprimés, libidineux, antipathiques, malsains, xénophobes, dilettantes, pas accueillants, le regard en coin, le sourire en berne, l'œil affaissé, et alors, point d'interrogation.
C'est Nicolas
Descendant qui a signé ça. Que voulez-vous dire exactement?
Non, mais c'est-à-dire que je... Parce qu'il y a la suite, quand même. Il y a la suite. Oui, mais ils sont aussi... Et il y a toute une grande liste d'épithètes. C'est-à-dire que le Parisien arrive avec une cohorte, disons, d'a priori. On dit que les Parisiens sont ci et sont ça, ce qui est vrai. Mm-hmm. Mais voilà, c'est ce qui fait le caractère de vie. Le Parisien est éruptif. Le Parisien est contrasté. Le Parisien n'est pas terne. Ce qui est paradoxal, c'est que Paris est devenue une ville assez sage, assez ouatée, et je pense un petit peu terne par rapport à ce que ça peut être à une époque. Mm-hmm. Mais les Parisiens sont encore là, et c'est ce que j'ai dit, il suffit d'appuyer sur un bouton, et ça pète et ça sort. On a vu ça avec les Gilets jaunes, et on voit ça. Voilà, il y a une tradition de l'insurrection, ou même de la râlerie. On est aussi un peu chez Astérix, c'est-à-dire c'est le Français, c'est le Gaulois.
Réfractaire.
Et surtout, on est à la jonction des pays du Nord et des pays du Sud, c'est-à-dire qu'on est à la fois, germanique, anglo-saxon et latin, et donc on est à la croisée des gens, et il y a un côté vierge folle, vierge sage constamment.
Alors chacun a ses plaisirs, ses détestations, ses lieux de prédilection. Jonathan Sixou, vous détestez, vous l'écrivez, vous détestez le nouveau quartier de la Bibliothèque nationale.
Ah oui.
Vous nous expliquez, c'est une allégorie de la désolation terrestre. C'est si grave, docteur?
C'est d'autant plus grave que je pense que c'est incurable. Ce quartier est effrayant. L'allégorie de la désolation terrestre, c'est la bibliothèque.
Hein. Oui, alors, il faut nous rappeler, avant la bibliothèque, il y avait quoi?
Les rails de chemin de fer.
D'accord.
Qui longent la Seine, qui est à l'arrivée gare d'Austerlitz.
Oui.
Est sorti progressivement au milieu, à partir de la fin des années 80, les premières dalles de béton qui enjambent les rails d'Austerlitz. Ouais.
Là, il y avait la rue Watt, la fameuse
rue Watt. Il y avait la fameuse rue Watt, effectivement.
Chantée par Boris Vian.
Voilà.
C'était le 13e arrondissement, mais le 13e arrondissement qui n'avait lui aussi pas changé depuis deux siècles. Il y avait encore les péniches commerciales qui pouvaient accoster, etc. C'était un peu la zone. C'est pour ça qu'ils ont voulu lotir ce coin. Mais après, c'est un goût personnel, mais l'architecte choisi pour la BN est un très mauvais choix, selon moi. Et ensuite, d'aligner tous les immeubles à la hauteur dessinée par les tours de Perrault, ça vous fait un quartier complètement écrasé. Et même si, quand vous vous baladez un peu là-dedans, vous voyez, il y a quelques façades qui sont pas mal, mais vous sentez partout le geste empêché.
Parce qu'il faut pas. Donc c'est la honte, quoi. Pour vous, c'est la honte suprême.
Oui, on peut dire ça.
Nicolas Descendant.
Alors, curieusement, c'est pas le quartier qui me dérange le plus. C'est-à-dire, tout d'abord, pour la construire, on n'a pas trop rasé. C'est-à-dire que, contrairement à tout l'Est parisien, au 13e, au 14e, au 12e, au 19e, au 20e, le quartier de la Place des Fêtes, qui est une aberration, les Olympiades dans le 13e, là, c'est quand même des rues entières. C'était une friche industrielle. Alors, en fait, la bibliothèque, je trouve que c'est un monument affreux, raté. En plus, c'est un non-sens avec les livres en haut, les archives en bas. Enfin, c'est idiot.
Le Parisien est râleur, disiez-vous tout à l'heure.
La façon dont ils ont récupéré les grands moulins de Paris, je trouve que c'est assez astucieux. Les frigos qui ont gardé un côté un petit peu décalé. Et ces rues qui portent des noms comme la rue René Goscinny, là, je trouve ça plutôt sympathique. Et je veux dire, les immeubles en soi sont toujours moins laid que tout ce qu'on a fait dans les années post-Corbusier.
Une question d'époque.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moins, c'est les tours de verre, ça respire. Mmh. Alors, j'y vais assez régulièrement parce que c'est là que se trouve le siège, notamment des éditions Plomb. En fait, on n'est pas à Paris. On a l'impression d'être. On pourrait être dans un pays anglo-saxon, on pourrait être en Australie, on pourrait être au Canada. Non, mais c'est.
D'autant que les distances.
Ça n'est pas un compliment.
Les distances ne sont pas des distances parisiennes. Non. Vous marchez très longtemps pour vous rendre d'un numéro à un autre de l'avenue de France.
Les trottoirs sont très larges. C'est un autre Paris, mais ça me. Il y a quelque chose. En fait, c'est assez exotique quand j'y vais. Je sais pas où je suis. Ouais. Je me dis tiens, c'est amusant. Et puis je traverse la Seine et je me retrouve à Bercy. Donc ça me. J'ai pas de grief particulier contre ce quartier par rapport à d'autres quartiers qui vraiment pour moi sont des désastres.
Paris donc terre de contraste. Nous allons écouter Francis Lemar qui en 1957 nous promenait à Paris.
Musique. à Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, où ça parle ce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui l'a depuis le matin. Au café, y a la Seine à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. V'là l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
Nous étions avec Francis Lemarque en 1957 à Paris.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Les racines du présent aujourd'hui autour de la ville capitale, autour de Paris, Paris, son histoire. Paris est un lieu d'histoire où on croise l'histoire de la France et l'histoire de cette ville avec deux amoureux de Paris. Aujourd'hui, nos deux invités, Nicolas Destiendorf pour son dictionnaire amoureux de Paris chez Plon, réédité en poche ces jours-ci. Et puis Jonathan Sixou pour son livre intitulé « Capitale au cerf ». Alors, il y a eu quand même un événement majeur dans l'histoire de Paris ces derniers temps. Ça a été l'incendie de Notre-Dame. Je voudrais savoir comment l'un et l'autre vous l'avez vécu, Nicolas Destiendorf.
Bah, d'abord, il y a eu l'incrédulité, la sidération. Je me souviens, j'étais au Demago et je sors et je regarde et on voit une espèce de toupet noir qui sortait en direction est. Puis les gens commencent à dire Notre-Dame est en train de brûler et c'était comme une espèce de rumeur publique. J'arrive chez moi, je regarde sur Internet, je vois ça et je me suis dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'étais avec mes enfants, je pouvais pas les laisser et j'étais dehors et tout à coup, et donc on était en train de dîner et tout à coup, j'entends un bruit de neige parce qu'il y a un petit arbre et j'entends un bruit de neige exactement comme quand il neige dans des arbres et je me rends compte que dans mon assiette, il y a de la cendre.
De Notre-Dame.
Là, ben, forcément, parce que tout à coup, le vent a tourné et tout à coup, j'ai mangé la cendre de Notre-Dame et il y a eu ce truc de, ça paraissait pas possible. Il y a des choses, on se dit, on peut pas voir ça, c'est la sidération.
Éternel.
Oui,
éternel,
et puis on n'associe pas cet élément avec du feu. C'est-à-dire qu'on imaginait plein d'autres monuments qui pourraient brûler, mais Notre-Dame, c'est juste impossible.
Car Notre-Dame avait traversé toutes les violences historiques de Paris. Jonathan Sixou.
Oui, la même sidération, effectivement. Moi, j'y suis allé pour voir. J'avais besoin de le voir pour le croire. Et c'est peut-être la seule fois où, même en le voyant, je n'arrivais pas à y croire. Et c'était... bouleversant d'avoir ces dizaines de milliers de Parisiens qui étaient bouleversés aussi. Il y avait une émotion incroyable sur tous les quais de la rive droite. Et le Et en y réfléchissant très rapidement...
Quelle lecture avez-vous fait de cet événement ?
Ma lecture est assez pessimiste. C'est la démonstration matérielle de notre civilisation.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, bon, on le voit à travers toutes les conversations qu'on peut avoir entre nous. Tout le monde parle de changements radicaux qui s'opèrent sous nos yeux et dont on est totalement face auxquels on est impuissant. Bah là, c'est ce qui symbolise la puissance, la pérennité de notre culture et de notre civilisation qui, sous nos yeux, en quelques heures, disparaît.
Un effondrement.
Et pour moi, ça matérialise vraiment ça.
Nicolas Dessendorf, vous êtes familier d'une littérature apocalyptique. On comprend ça en vous lisant. Vous citez notamment ce fameux livre de René Barjavel, Ravage,
oui.
Publié en 1943, où Paris était aux prises avec une apocalypse technologique. Est-ce que c'est une forme d'apocalypse, l'incendie de Notre-Dame, pour vous ?
Oui, il y a une forme de... C'était même assez lyrique. Enfin, on ne pouvait pas s'empêcher, c'est terrible à dire, mais de trouver ça beau. C'était magnifique comme spectacle. Les photos sont... C'est à la fois effrayant. Enfin, c'est comme j'imagine l'incendie de Rome pour Néron qui trouve ça magnifique.
C'est du même niveau.
Ah ben oui, il y a un côté embrasement du Valhalla. Enfin, il y a un côté où ça a la beauté tragique et désespérante d'une apocalypse. On se dit, bon ben, de toute façon, on ne peut plus rien faire, donc autant trouver ça beau. Et c'est tragique, mais c'est beau à pleurer. C'est ça qui est très troublant.
Alors, dans la série Nostalgie, on a vu ces derniers temps Paris vidé, Paris covidé, Paris sous la pandémie. Comment avez-vous vécu, vous qui êtes l'un et l'autre des promeneurs de Paris, des passionnés, des fantômes de Paris, comment avez-vous vécu cette ville fantôme, Jonathan Sixou ?
Pour le premier confinement, comme beaucoup, je me suis fait avoir et je me suis laissé enfermer à Paris, ce qui m'a beaucoup attristé, c'était de ne pouvoir même plus faire ma petite balade du matin au Luxembourg, d'avoir l'impossibilité de traverser un jardin, m'avait beaucoup affecté. Et après, je me suis arrangé pour fuir la ville quand même.
Vous avez fui. Nicolas Dessendorf, vous avez fui, vous aussi ?
Alors, j'ai fui et j'ai réussi à fuir deux jours avant la fermeture. Et je suis allé au pays de Barjavel, justement. Je suis allé en Drôme provençal où j'ai vécu enfermé pendant 2 mois. Et j'aurais très bien pu être au milieu de l'apocalypse, je n'en aurais rien su. Mais j'étais en contact constant et pour la première fois de ma vie, j'ai regardé les actualités tous les soirs, ce qui ne m'était jamais arrivé.
Et ça vous a fait du mal, j'imagine.
C'est-à-dire, c'était le côté répétitif et incroyablement créatif des journalistes qui trouvaient toujours un thème pour dire, voilà, telle profession face au Covid, les fleuristes, les producteurs de choux-fleurs, les bouchers. Et voilà,
c'est drôle, moi, c'est l'inverse, parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de regarder les
voilà, c'est ça. Est-ce que Paris est une ville qu'il faudrait fuir, Nicolas Dessendorf, qu'il faudrait pouvoir fuir pour pouvoir y vivre pour de vrai ?
De toute façon, c'est toujours bon de fuir et de revenir. Il ne faut pas rester encroûté quelque part. C'est toujours bon, le fameux changement d'herbage qui réjouit les veaux. Et dès que je pars un peu longtemps de Paris, normalement, tous les étés, je pars 2 mois. Alors, je n'ai pas pu le faire, mais assez loin de Paris. Et lorsque j'en reviens, ma capacité d'émerveillement est rechargée. J'ai rechargé les accus et tout à coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau. Juste le trajet en taxi pour revenir longer la Seine. Je regarde ça, je me dis, mais c'est la plus belle ville du monde, objectivement.
Donc il faut l'aller-retour, Jonathan Sixou, vous pratiquez ça ?
fréquemment. fréquemment. Mais je dois dire que ma capacité d'émerveillement est sérieusement amoindrie depuis quelques années maintenant, parce que les actes d'enlaidissement de la capitale sont tellement visibles. Je pense notamment à ces blocs de béton jaune qu'on voit partout. Désormais.
Où donc
l'avenue de l'Opéra est divisée en zones de circulation parallèles.
Les blocs de béton qui sont au sol, c'est ça ?
Qui sont au sol, d'accord. Exactement, et qui sont peinturlurés en jaune fluo au cas où on les verrait mal. C'est le cas du boulevard Saint-Michel, qui n'est peut-être pas le plus beau de Paris, mais c'est un...
Et la rue de Rivoli.
La rue de Rivoli, évidemment. Enfin, tous les grands axes comme ça, surtout. Et ça m'affecte énormément. L'œil est heurté par ces tentatives d'enlaidissement.
L'œil est heurté, mais les vieux parisiens que vous êtes, là, on arrive bientôt au terme de cette émission. On va parler de la vie d'aujourd'hui à Paris. On va oublier l'histoire quelques instants. La volonté de la municipalité de limiter la vitesse à 30 km/h, de faire sortir les voitures, de donner la priorité aux vélos et aux trottinettes, ça vous agace ou vous pensez que c'est une voie d'avenir, Nicolas Dessendorf ?
Le problème, c'est qu'il y a une volonté, il y a aussi une façon de faire. C'est-à-dire que effectivement, Paris, il y a un problème d'engorgement de voitures. Ça fait trop longtemps qu'il y a trop de voitures dans Paris. Limiter la circulation est une chose, mais le faire de façon tyrannique, dictatoriale et avec une esthétique qui est celle de qui est d'une vraie laideur. On a l'impression que les concepteurs esthétisants de la mairie de Paris ont fait leur classe dans les hôtels Ibis, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça tout soit moyen, c'est-à-dire que c'est mochard, c'est ni affreusement laid ni beau, c'est juste mochard, c'est juste médiocre. Et ça, quand même, Paris ne souffre pas de la médiocrité. À Paris, il faut de la grandeur ou éventuellement quelque chose qui nous aurépine. Mais là, c'est juste laid, c'est piteux,
c'est petit.
Piteux.
C'est petit.
Jonathan, voilà. Sixou, vous partagez ce point de vue?
Oui, parfaitement. Et quand on sait que c'est une volonté officielle de l'actuelle municipalité de repenser l'esthétique de Paris, on peut s'attendre au pire. C'est dans les tuyaux en ce moment. Je crois qu'il y a des consultations qui ont été lancées dès le printemps dernier.
Mais si je vais faire l'avocat du diable.
Oui, faites.
Si la ville devenait piétonne, que diriez-vous, Jonathan Sixou?
Je ne sais pas ce que je dirais parce que c'est de toute façon, il y a tellement de dérogations possibles quand un quartier devient piéton. Si vous cassez la jambe, vous pourrez toujours prendre un taxi pour aller à pied, voiture quelque part.
Dieu merci.
Dieu merci. Mais après, les histoires d'embouteillages, on se plaint des embouteillages à Paris depuis le 12e siècle. Ça a toujours mal roulé dans Paris. La différence, c'est que, et il y a toujours eu des problèmes en tant que piéton. Il était même encore plus dangereux. On parlait de la violence de Paris tout à l'heure. Il était beaucoup plus dangereux d'être piéton au 18e siècle ou même au début du 20e siècle dans les rues de Paris.
Voilà une vision positive des choses.
Mais
quand même.
Aujourd'hui, grâce à Haussmann, à Paris, on circule.
Mais aujourd'hui, vous manquez, ça est une expérience personnelle, de vous faire écraser sur des trottoirs par des vélos.
Ou des trottinettes.
C'est ce qui est arrivé il y a quelques semaines.
Il nous reste exactement 3 minutes. Juste en 1 minute chacun, votre coup de cœur parisien. Le lieu que vous aimeriez faire partager à nos auditeurs. Nicolas Dessiendorf.
Alors l'un de mes lieux favoris, c'est la cour d'Oran, qui est ce petit passage entre la rue de l'Hirondelle et la cour du commerce Saint-André, c'est-à-dire derrière le...
Au carrefour de l'Odéon.
Qui a été un passage public jusqu'à il y a 5 ans. Moi, je traversais tous les jours. Et parce qu'il y a la fondation Giacometti dedans, les riverains sont parvenus à imposer un code. Et pour moi, c'est une...
Et c'est un lieu d'histoire, parce que c'est là où habitait, sauf erreur de ma part, Danton.
Il était derrière plein de gens qui ont habité là. Et tout à coup, on a l'impression, dans le Paris des Mousquetaires, on a l'impression qu'on va avoir arrivé...
Jonathan Sixou.
C'est la fin de la rue de Fleurus. Quand vous arrivez par la rue d'Assas, c'est que vous allez vers le Luxembourg. La rue de Fleurus se termine rue Guynemer. Et là, depuis toujours, arriver, ce débouché de rue et l'arrivée ensuite devant les grilles, les grilles ouvertes du Luxembourg, ont toujours été pour moi une démonstration de liberté. C'est un grand désert qui s'ouvrait. À ce moment-là, on sortait des rues de Paris pour avoir ce grand espace qu'il suffisait de traverser avec au loin la coupole du Panthéon et tous les arbres.
On est 13e arrondissement. Hein.
Pardon.
Oui, là, je constate que vous êtes très Paris-Ouest, 13e arrondissement. Mais en tout cas, merci beaucoup de tout ce très beau parcours sonore aussi que vous nous avez fait faire. Vous nous avez accompagné. Je conseille vivement vos 2 livres qui sont, je le dis l'un et l'autre, des livres personnels. Jonathan Sixou, votre plume est subjective, personnelle, elle est diverse, elle est très vivante. On prend beaucoup de plaisir à vous lire. On peut picorer dans votre livre. C'est une joie non dissimulée dont je fais part. Et puis aussi, ce dictionnaire amoureux de Paris, signé Nicolas Dessiendorf, chez Plon, dans la collection L'Abeille. Je fais publiquement un appel à l'éditeur. Il faudrait faire une mise à jour. Il faudrait faire quelques... Il faudrait parler aujourd'hui des gilets jaunes. Il faudrait parler des trottinettes dont on a parlé. Je suis sûr que vous pourriez nous faire des pages magnifiques sur les trottinettes, sur le Paris vidé également de la pandémie. En tout cas, un grand merci à vous deux. Donc je rappelle les titres des livres, Dictionnaire amoureux de Paris chez Plon, Nicolas Dessiendorf, Jonathan Sixou, Capital au Cerf. Vous pouvez évidemment retrouver les coordonnées de ces livres sur le site de RCF et vous pouvez évidemment et surtout nous écouter quand vous voulez, où vous voulez, en baladodiffusion. Cette émission Les Racines du Présent, on le sait, est désormais très très écoutée en baladodiffusion, en voiture, et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ce qu'on appelle la radio délinéarisée. Voilà. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.